Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Soir. Avec à la une cette question, le futur pass sanitaire est-il déjà en partie vidé de sa substance? Les patrons de bars, les patrons de restaurants n'auront pas à vérifier en effet l'identité des clients qui leur présenteront un QR code. Impossible donc de savoir s'il est bien authentique, sauf en cas de contrôle ensuite de la police. On y revient dans le détail dans un instant avec Arnaud Touche. En attendant, pour les autres, les cinémas, les théâtres, il a fallu s'adapter à ce nouveau pass entré en vigueur pour le coup aujourd'hui pour eux. Ça n'a pas toujours été fluide, on verra ça à Armentières, dans le Nord, dans une base de loisirs. Et puis à 18h15, l'invité d'RTL Soir sera la chef de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, le PS qui prend position maintenant en faveur d'une vaccination obligatoire pour tous. On en parlera avec elle. Dans le reste de l'actualité, ce double infanticide dans le Finistère, une mère est soupçonnée d'avoir tué ses deux filles de 4 et 6 ans sur fond de séparation conflictuelle. Et puis on parlera de l'onde de choc, du scandale Pegasus, ce logiciel espion vendu par une société israélienne. Emmanuel Macron en a peut-être été victime. L'État d'Israël a-t-il fermé les yeux sur des pratiques déviantes d'une société réputée très proche du pouvoir? On posera la question à Katia Roux d'Amnesty International. La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Olivier.
Il fait chaud et ça va continuer.
Exactement, chaud et beau encore, un franc soleil dès demain matin. Alors juste comme aujourd'hui, quelques grisailles sur la côte aquitaine le matin, mais ça va se dégager en journée. Et pareil, sur la côte d'Azur, un peu de brume et de brouillard vers la basse Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Et puis dans l'après-midi, quelques plaques de grisailles côtières qui vont résister sur les Landes, sur le golfe du Lion. Une petite averse possible sur le relief des Pyrénées, mais sinon du grand bleu. Avec des températures encore bien élevées, des pointes à 37-38 dans le sud-ouest, 37 à Toulouse, 36 à Auch, 31 à Lyon, 30 à Paris, 25 à Cherbourg. Et je rappelle qu'il y a toujours 4 départements en vigilance crue.
Merci beaucoup Peggy, vous parliez de Lyon, 31 degrés demain après-midi. Figurez-vous que la mairie expérimente en ce moment une peinture anti-chaleur sur les trottoirs pour faire baisser la chaleur. Justement, on verra si c'est efficace en fin de journal. En deux mots, vos rendez-vous d'ici 19h. Isabelle Morini-Bosque, ses conseils télé à 18h25. Et à 18h45, le carton annoncé du film Kaamelott. On sera avec Alexandre Astier. Voilà pour le programme. Merci d'être avec nous sur RTL.
Olivier Bois,
RTL Soir.
Ça a donc été l'une des annonces assez surprises ce midi du Premier ministre Jean Castex dans le journal de TF1. Les patrons de bars, les patrons de restaurants n'auront pas l'obligation de vérifier les identités des clients qui leur présenteront leur QR code quand ce sera mis en place en août dans leurs établissements. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir Olivier. Bonsoir.
Comment savoir dans ces cas-là, Arnaud, si le QR code est bien celui du client qui le montre?
C'est impossible en fait, vous avez parfaitement raison, car pour vérifier le QR code présenté par un client, il faut vérifier l'identité du client. Elle est indiquée sur l'application de vérification. En réalité, il y a trois choses qui apparaissent lorsque le personnel scanne un code: le nom, le prénom et la date de naissance. Alors pour les restaurateurs et les propriétaires de cafés, cela reste une victoire et une vérification en moins à faire, comme le détaille Marcel Bénézé du Groupement National des Indépendants.
J'étais ravi d'ailleurs d'entendre le Premier ministre qui nous a dit qu'on n'aurait pas à demander la carte d'identité à nos clients. Ce qui me ravit parce que nous aujourd'hui, le pass sanitaire, on était d'accord bien sûr, mais il n'y a pas de contact. Pour rester ouvert, nous sommes prêts à faire tout ça. Mais la carte d'identité, ce n'était pas possible.
Alors problème ce soir, d'autres secteurs comme celui des parcs d'attractions par exemple dénoncent un certain favoritisme vis-à-vis des restaurateurs. Car les parcs doivent bien contrôler l'identité des visiteurs, par exemple.
Et d'un mot, Arnaud, est-ce que cette règle sera aussi celle appliquée dans les transports?
Alors, pour prendre l'avion, oui, la pièce d'identité est déjà exigée au départ pour contrôler que c'est bien votre passe sanitaire que vous présentez. Pour le train, il y a de fortes chances, en fait, que ce soit la même chose, en fait. Reste à savoir qui contrôlera les passagers. Ça, on ne le sait pas encore, c'est pas encore acté. Mais je vous rappelle que le passe sanitaire pour les trains sera exigé seulement à partir de début août.
Merci beaucoup, Arnaud Touche, du service économique et social d'RTL. Voilà donc un pass sanitaire à géométrie variable, puisque pour le coup, vous le disiez Arnaud, les cinémas, dans les théâtres, dans les salles de sport où la mesure est entrée en vigueur aujourd'hui, eh bien la règle est différente. Exemple, dans cette base de loisirs d'Armentières dans le Nord, 120 hectares en pleine nature, la Franck Hanson, on vérifie le pass et l'identité qui va avec.
Oui, à l'entrée du parc, en amont des caisses, les visiteurs présentent leur téléphone portable ou une attestation et les agents sont assez scrupuleux.
Est-ce que je peux avoir une pièce d'identité, s'il vous plaît?
J'ai mon permis, s'il vous plaît.
Ouais, le permis, ça ira aussi.
C'est bon?
Oui, j'avais ce qu'il fallait. J'ai fait ma vaccination au mois de juin. Pour aller à un parc en plein air, je trouve que c'est un petit peu exagéré.
C'est sûr qu'il faut prendre des précautions. Hein.
Certains comme Fred, qui arrive avec ses enfants, est d'abord passé à la pharmacie du coin.
On est passé à la pharmacie, on a fait le test. On a attendu que ce soit vers 14h.
C'est un peu surprenant, mais on n'a pas le choix de toute façon.
Mais d'autres parents non vaccinés se sont laissés surprendre.
Un sanitaire pour les
les adultes, pas pour les mineurs.
C'est à partir d'aujourd'hui?
C'est à partir d'aujourd'hui.
On ne savait pas du tout.
Je ne peux pas vous laisser rentrer.
On fait quand même 45 bornes pour venir ici, donc ce n'est pas évident.
Dans ce grand parc nature, autour d'un lac avec jeux et piscine, le port du masque reste obligatoire dans certains lieux clos, seulement recommandé ailleurs. Des nouvelles contraintes qui perturbent un peu le fonctionnement, reconnaît Jocelyn Leclerc, le directeur adjoint.
Quand il faut contrôler tous les adultes d'une même famille, effectivement, ça prend plusieurs minutes. Nous avons constaté aujourd'hui un peu moins de visiteurs qu'hier.
Et des renforts sont attendus pour le mois d'août à l'accueil de cette base de loisirs.
Merci Franck Hanson, correspondant RTL dans le Nord. En bref, quelques précisions qu'apporte le gouvernement aujourd'hui. Les 12-17 ans auront finalement jusqu'à fin septembre pour être soumis au pass sanitaire obligatoire. Il y aura une campagne de vaccination directement dans les établissements scolaires à partir de la rentrée. Et puis sachez que les femmes enceintes peuvent désormais se faire vacciner dès le premier trimestre de grossesse. Olivier Véran l'a annoncé cet après-midi. Jusque-là, c'était uniquement à partir du deuxième trimestre. Pour rappel, les femmes enceintes sont considérées comme à risque. Les antipasses sanitaires, les antivaccins, eux, manifestent depuis le milieu d'après-midi à Paris, dans le 15e arrondissement. Ils sont assez peu nombreux, 250 personnes à peu près. Parmi elles, Paul, qu'a rencontré Vincent Serrano.
Au-delà de la liberté, le gouvernement dit tout et son contraire. Il disait que le vaccin ne serait pas obligatoire. Il devient obligatoire de fait. Il nous crée un pass sanitaire uniquement pour les grandes occasions. Finalement, il nous l'étend pour tout. Même moi qui suis handicapé, je peux plus aller à l'hôpital, je peux plus aller en pharmacie. Enfin, c'est juste, mais du délire. Non, mais il n'y a pas de contrôle d'identité, mais un contrôle du QR code. Ça veut dire, donc, en fait, je peux mentir en disant, en fait, je ne montre pas mon identité, mais je prends le QR code de quelqu'un d'autre. Donc, on arrive dans une société du compromis où on ment. Et c'est pas possible, c'est juste pas possible. Soit, en fait, on est des êtres entiers, dignes et dans un état de droit, soit on est tout le temps dans la compromission et là, on perd nos âmes. Voilà, pour un pass sanitaire qui risque de durer et de durer et de durer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mentir 5 ans, je vais mentir 10 ans. Ce virus, on va se le prendre dans la gueule pendant 10 ans. Donc je vais mentir 10 ans.
Voilà donc les propos de ce manifestant anti-mesure, Paul. Et voilà d'une certaine manière ce que répond à ce genre de raisonnement le ministre de la Santé, Olivier Véran. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Face au verre à moitié vide, face au train qui arrive en retard, il y a un pays qui tient bon. Cette majorité de Français ne se reconnaît pas dans l'indécence devenue commune par le jeu des réseaux sociaux. Cette majorité de Français ne se reconnaît pas dans la défiance érigée en principe de vie. Cette majorité de Français ne vocifère pas et ne pratique pas l'outrance comme certains pratiquent la prose. Les moutons ne sont pas ceux que l'on croit et l'histoire retient déjà qu'il y a un an et demi, certains esprits parfaitement libres et indépendants se sont égarés du mauvais côté de la grippette.
Olivier Véran, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Un dernier mot sur la vaccination, l'heure est toujours à l'accélération. Le Premier ministre Jean Castex promet 5 millions de rendez-vous dans les deux semaines à venir, avec un objectif toujours à 50 millions de primo-vaccinés en France à la fin du mois d'août. On en parlera en tout cas dans un instant avec la chef de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, le PS qui se positionne maintenant en faveur d'une vaccination obligatoire pour tout le monde. On en parle donc tout à l'heure à 18h15. On va faire une pause sur RTL et dans un instant ce double infanticide à côté de Brest. C'est une mère de famille qui est arrêtée, soupçonnée d'avoir tué ses deux fillettes. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir. RTL Soir, Olivier Bois.
18h09 sur RTL, une mère de famille a été arrêtée dans le Finistère, soupçonnée d'avoir tué ses deux enfants, des fillettes de 4 et 6 ans qui ont été retrouvées mortes au domicile familial, Guillaume Chiez.
Oui, c'est la grand-mère des deux petites filles qui a donné l'alerte. Elle devait les récupérer ce matin, mais sur place, l'appartement est fermé à clé de l'intérieur et personne ne répond. La grand-mère appelle les pompiers qui se chargent d'ouvrir la maison. Dans l'une des chambres, ils découvrent alors le corps sans vie des deux filles allongées sur un lit. Ils tentent de les ranimer. En vain, la mère, elle, a tenté de mettre fin à ses jours, mais les pompiers parviennent à la maintenir en vie. Elle est aujourd'hui hospitalisée. Sur le corps des filles, aucune trace de coup. Il faudra attendre l'autopsie pratiquée demain pour connaître l'origine de leur mort. Quant aux circonstances, la piste privilégiée est celle du double homicide familial suite à une séparation. Le père des filles était absent du domicile depuis plusieurs jours. Il avait annoncé à la mère qu'il comptait la quitter et celle-ci ne l'aurait pas supporté.
Merci beaucoup Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. On en vient donc maintenant à cette affaire d'espionnage. Plusieurs pays, notamment le Maroc, sont accusés d'avoir utilisé le logiciel espion israélien Pegasus pour surveiller des journalistes, des opposants politiques. 50 000 numéros en tout ont été identifiés, et notamment un numéro, on l'a dit, appartenant à Emmanuel Macron. On accueille Katia Roux, experte surveillance et liberté au sein d'Amnesty International France. Bonsoir madame.
Bonsoir.
On découvre l'ampleur potentielle, l'ampleur tout court de cette affaire d'espionnage. Reporters sans frontières met en cause aujourd'hui la responsabilité d'Israël qui aurait, d'une certaine manière, laissé faire cette entreprise NSO réputée très proche du pouvoir. Est-ce que vous vous associez à cette mise en cause ?
Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés dans ce scandale. Effectivement, Israël a aussi des responsabilités. Amnesty International avait d'ailleurs mené une action en justice en 2019 contre NSO pour demander au ministère de la Défense israélienne de révoquer la licence d'exportation d'NSO. Le tribunal de Tel Aviv avait jugé en juillet 2020 que ces ventes étaient légales, avait quand même demandé plus de transparence, mais effectivement, Israël doit aujourd'hui, au vu des révélations qui sont effarantes, mettre fin à cette exportation qui comporte de gros risques en matière de droits humains.
De ce qu'on a pu voir pour l'instant des réactions officielles, eux disent que normalement ce logiciel Pegasus est utilisé pour la lutte antiterroriste ou pour la lutte contre le grand banditisme. Est-ce qu'ils se lavent les mains des utilisations et des potentialités de leur logiciel ?
Oui, alors ça, c'est le discours officiel tenu effectivement par l'entreprise, tenu aussi par les gouvernements clients, c'est-à-dire qu'officiellement, ce logiciel est utilisé pour lutter contre les terroristes, pour lutter contre la criminalité. Notre enquête révèle qu'en réalité, les clients de NSO l'utilisent pour cibler des défenseurs des droits humains, des journalistes, la société civile.
Est-ce que NSO est au courant des pratiques ensuite de leurs clients ? Est-ce qu'on peut leur reprocher ?
Alors, NSO nie...
Ou est-ce qu'il faut interdire ce logiciel, puisqu'il est trop puissant potentiellement ? Est-ce qu'il faut tout simplement interdire le logiciel ou contrôler ensuite l'usage qu'en font les différents services secrets ?
Alors nous, très clairement, on appelle à un moratoire sur le transfert de ce genre de technologie, le temps qu'un cadre réglementaire respectueux des droits humains soit mis en place. Aujourd'hui, on est face à une technologie qui est hors contrôle, qui n'est pas du tout régulée. Et oui, effectivement, en attendant qu'il y ait un cadre respectueux des droits humains, il faut suspendre tout transfert de technologie potentiellement nocif pour les droits humains.
C'est un logiciel qui permet d'aspirer les contenus d'un téléphone portable, les photos, de voir tous les textos ou autres messages. Nos services de renseignement, par exemple en France, ils savent le faire, ce genre de choses. Comment contrôler ce que peuvent faire des pays démocratiques comme le nôtre ? Est-ce que ce n'est pas finalement la même chose ? Potentiellement, en tout cas.
Alors là, la question, c'est à quoi sert ce logiciel ? Effectivement, les pratiques de renseignement existent. Plusieurs pays ont aussi des instruments, des outils, effectivement. Mais là, la question, c'est à quelle est l'utilisation qui en est faite ? Aujourd'hui, l'utilisation qui est faite d'un tel logiciel est une utilisation qui est illégale. Quand on surveille numériquement des personnes ciblées en raison de leur activisme pacifique, en raison de leur position parfois critique, on est hors cadre du droit international qui stipule que cette pratique doit être encadrée et répondre à des critères très stricts.
Merci beaucoup, merci Katia Roux d'avoir été l'invitée d'RTL ce soir. Vous êtes experte surveillance et liberté au sein d'Amnesty International France. Merci d'avoir été sur RTL ce soir. Précisons d'ailleurs que le Premier ministre s'est exprimé sur cette affaire ce midi en disant que pour le moment il serait un peu irresponsable selon lui de parler sans savoir exactement ce qu'il en est, mais il reconnaît que l'affaire est potentiellement grave. On va partir maintenant à Tokyo, J-2 avant la cérémonie d'ouverture, et toujours sur place cette défiance d'une partie de la population. Par exemple, sur les 80 000 personnes recrutées, 10 000 avaient le mois dernier préféré quitter les rangs des bénévoles des JO, trop inquiets par la situation sanitaire et à cause également de la lenteur de la campagne de vaccination. Reportage Amy Elliott.
Sur son maillot bleu aux couleurs des Jeux, la bénévole arbore un badge « Je suis vaccinée ». Et pourtant, elle n'a pu compter sur le comité d'organisation pour obtenir sa seconde dose.
Le comité olympique n'a proposé le vaccin qu'en juillet. Je ne pouvais pas recevoir les deux doses à temps pour les Jeux. J'ai donc demandé à un ami médecin. Il a pu me faire une seconde injection samedi dernier.
Les organisateurs avaient pourtant annoncé le mois dernier vouloir vacciner leurs 70 000 volontaires. Mais la campagne n'a progressé que lentement et se trouve désormais plombée par une pénurie de vaccins. Comme beaucoup, cette enseignante n'a pour le moment reçu qu'une injection.
Je pense que les bénévoles auraient dû être vaccinés bien avant, tout comme pour la vaccination de masse. Ils auraient dû commencer dès que le vaccin a été disponible dans le pays.
Parce qu'elle s'est engagée, elle participera quand même. D'autres, comme cet expatrié américain, ont écourté leur mission.
Je suis content de l'avoir fait, mais je suis assez soulagé de ne plus avoir à le faire.
23% de la population japonaise est vaccinée. C'est presque deux fois moins qu'en France.
Merci beaucoup. Reportage d'Amy Elliott. Hein, et la compétition a commencé avant même la cérémonie d'ouverture, par exemple en softball ou en football, et précisément la France, l'équipe de France de football affronte demain le Mexique à 10h heure française. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Eh bien la bonne nouvelle du jour, c'est vous Peggy qui nous l'avez annoncé, il va faire chaud demain, beau et chaud, et figurez-vous qu'à Lyon, eh bien la mairie expérimente pendant un an une peinture anti-chaleur posée sur le trottoir. C'est expérimenté dans le 7e arrondissement. Alors est-ce que ça marche? Reportage de Frédéric Perruche.
En quelques minutes, 100 mètres carrés de trottoirs exposés plein sud sont recouverts de cette peinture beige baptisée Climatrode pour ses qualités thermiques qui permettent de faire baisser la température au sol d'une dizaine de degrés, preuve à l'appui.
On est sur un asphalte noir, on est à 41,4 degrés, il est un peu plus de 13 heures. Au niveau de la peinture, on est à 30,3 degrés. Donc on a déjà une différence de température d'une dizaine de degrés entre un revêtement existant qui stocke et emmagasine la chaleur et la peinture anti-chaleur Climatrode présentée.
Aucun doute sur l'efficacité instantanée du produit déjà utilisé aux États-Unis, reste à le vérifier sur un an, explique Sébastien Miller, le patron d'Agilis.
Ce qu'on veut voir, c'est si ça a un effet sur la globalité de la place. C'est-à-dire quand vous êtes au milieu, est-ce que vous avez un petit peu de sentiment qu'il y a moins de chaleur que quand vous êtes sur de l'enrobé classique? Et l'expérimentation qu'on fait avec le Grand Lyon permettra de le prouver.
Car on ne peut pas planter des arbres partout pour rafraîchir l'atmosphère en ville, selon Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole.
Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas mettre des arbres, notamment quand il y a des réseaux, notamment quand on a besoin de zones de circulation, de pistes cyclables. Donc, rajouter cette peinture céramique nous offre des solutions nouvelles.
Si l'expérimentation est concluante, cette peinture innovante et rafraîchissante pourrait être appliquée dans de nombreux îlots de chaleur de l'agglomération lyonnaise.
Merci beaucoup Frédéric Perruche. Bon courage aux Lyonnais demain et aux habitants du Sud-Ouest. Peggy, c'est le record demain.
Ah oui, demain, des pointes à 37 voire 38 degrés. Il va faire très très chaud.
Bon courage, surtout qu'ils n'auront pas la peinture anti-chaleur, mais ils auront l'océan, donc ça devrait aller un peu mieux. On va faire une pause dans un instant sur RTL. Dans un instant, donc l'invité d'RTL Soir est Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On va parler évidemment des débats parlementaires en ce moment sur la mise en place des futures mesures face au Covid. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et à 18h19 sur RTL, l'invité de ce journal est la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Première question sur ce pass sanitaire. On a commencé le journal tout à l'heure avec ça. On découvre que les patrons de bars ou les patrons de restaurants ne seront pas obligés de vérifier l'identité des clients qui viendront avec leur pass sanitaire et avec leur QR code. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce qui a surpris un peu tout le monde aujourd'hui?
Nous, ce que nous disons depuis le départ, c'est que ce pass sanitaire arrive un petit peu parce que le gouvernement n'a pas défini de stratégie en matière de vaccination. Nous prenons une vaccination obligatoire, ce qui est inclusive. C'est-à-dire que vous avez la caisse primaire d'assurance maladie qui aujourd'hui peut appeler toutes les personnes de plus de 50 ans en leur demandant pourquoi vous n'êtes pas vacciné, les inciter à se faire vacciner. Vous voyez, un peu de pédagogie. Ça, c'est une règle claire et compréhensible. Et donc, du coup, on se retrouve avec une situation, on a un pass sanitaire dont les règles évoluent tous les jours au gré des annonces du gouvernement, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de la Santé hier soir qui aussi a fait bouger les choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on est contre le fait que les contrôles, que l'État abdique sa capacité à faire des contrôles quand il définit une règle claire. Vous demandez aux salariés des restaurants, aux salariés des cafés, aux bénévoles qui organisent des manifestations d'aller contrôler des QR codes. Alors maintenant, il n'y a plus de pièces d'identité, donc vous pourrez montrer un autre QR code si vous avez autre chose. Hein. Enfin, tout ceci. Donc ça, c'est pas sérieux.
Sauf si la police contrôle a posteriori, ce sera quand même dans leur prérogative.
Bien sûr, mais ça devrait être les seules habilités à faire des contrôles. Mais avant de mettre des sanctions et de faire des contrôles, ça serait beaucoup mieux de définir une règle claire qui est la vaccination obligatoire pour tous les adultes. On laisse l'été pour que les caisses primaires d'assurance maladie puissent appeler les uns et les autres en leur demandant pourquoi ils ne sont pas vaccinés, en les incitant à se faire vacciner, en mettant des bus de vaccination, que ce soit dans les différentes communes, en faisant comme ce que font les Italiens. La vaccination au bord des plages, voilà, moi je pense qu'ils ont mis les choses à l'envers. Un pass, ça divise la société entre ceux qui en ont un et ceux qui n'en ont pas. Et une règle claire, ça, c'est de manière inclusive. Et surtout, ça permet au gouvernement de faire un peu de stratégie vaccinale entre territoires qui sont quand même certains sont désavantagés puisqu'on voit qu'on a des taux de vaccination de 1 à 2 selon certains départements.
Vous avez parlé de vaccination obligatoire, c'est la position officielle maintenant du Parti Socialiste. Vous parlez en même temps de pédagogie. Obligatoire, sinon quoi, du coup, pour vous, quelles sont les manières de contrôler une obligation pour toute la société ?
Non, mais le premier, quand on définit une stratégie, il faut d'abord définir une règle. Là, on se laisse l'été. On a dit qu'on faisait un point on analysait la situation au 1er octobre. L'objectif, ce n'est pas de fliquer les personnes. L'objectif, c'est qu'on ait un taux d'immunité qui soit suffisant pour éviter qu'on voit les contaminations qu'on a aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on peut se permettre d'attendre la fin de l'été ? Le chiffre vient de tomber à l'instant. 21 000 contaminations ces dernières 24 heures.
D'accord.
18 000 le jour d'avant.
Je n'ai pas dit qu'on attendait la fin de l'été. Je dis juste qu'il faudrait que les caisses primaires d'assurance maladie appellent dès aujourd'hui en commençant par les personnes les plus à risque, c'est-à-dire plus de 50 ans, et puis ensuite on descend entre 40 et 50, etc., de le faire dans l'ordre. Je ne dis pas qu'il faille du tout attendre la fin de l'été, je dis juste que mettre un pass sanitaire avant de relancer les personnes pour aller se faire vacciner, c'est pas faire les choses dans le bon ordre, et c'est couper la société en deux, alors que justement, je pense qu'on n'en a pas besoin.
Mais vous pensez, face à cette urgence, vous pensez qu'on est encore dans ce rythme-là ?
Mais qu'est-ce
qu'on fait demain pour contrer... Pour l'instant, on n'a jamais su contrer une épidémie à 18 000 ou 20 000 cas par jour sans des mesures beaucoup plus fortes, en l'occurrence, que la pédagogie pendant un mois avant d'envisager...
J'ai pas dit la pédagogie pendant un mois avant d'envisager quoi que ce soit et de ne rien faire. Je dis juste, s'il y a quelqu'un qui vous appelle, l'assurance maladie, qui vous dit « Vous auriez incité à vous faire vacciner à partir du 1er octobre, ce sera vraiment obligatoire, vous pouvez quand même lancer le processus. » L'idée, c'est qu'on ait 90% de la population qui puisse être vaccinée parce que c'est le seul moyen d'atteindre une immunité collective. Vous pensez qu'avec le pass, ça ira mieux quand il y aura du trafic de pass, que chacun ira peut-être montrer des QR codes qui ne sont pas le sien, etc., etc. Vous avez vu ce qui s'est passé le week-end dernier à Bordeaux, où les personnes sont rentrées en discothèque avec des passes, et résultat, vous avez un cluster à 85 ou 80 contaminations. Donc, il faut être réaliste.
Et les mesures concrètes, vous auriez en tête ?
Les mesures concrètes que nous proposons, c'est de dire toutes les caisses d'assurance maladie, comme vous avez votre numéro de carte vitale, vous savez qui est vacciné et qui ne l'est pas. Vous appelez par tranche d'âge et vous commencez par les personnes qui sont les plus à risque, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus âgées. Et là, vous pouvez avoir une vraie politique de santé publique et pas une division de la société. Vous savez, là, on est en train d'examiner ce texte sur la vaccination. Il y a plus de 1000 amendements, c'est-à-dire, et une grosse partie d'entre eux porte sur le pass. Savoir si les terrasses en extérieur, on peut mettre le pass, allier avec le pass, etc., etc. Enfin, franchement, c'est pas sérieux. Donc nous avons une règle claire.
Il n'y a pas assez de temps cette semaine pour étudier. Normalement, c'est à minuit ce soir que le débat à l'Assemblée se termine. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est envisageable pour vous ?
Je ne vois pas comment il va se finir à minuit ce soir.
Vous avez quitté le bureau en commission hier à 2h40 du matin, si je ne fais pas d'erreur ?
Exactement.
Pour quelle raison vous avez quitté la table de négociation alors
enfin, ce n'est pas la table de négociation.
Non, des amendements de fait ont été pris, donc il y a une marge de négociation.
Sur 713 amendements, vous en avez 12 qui ont été pris. Alors, si vous appelez ça...
C'est une mascarade et un faux débat ?
Encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 12 amendements votés sur 713, je pense que vous faites comme moi une règle de 3, ça fait quand même pas beaucoup.
Et alors, sur la vaccination, on voit quand même que les rendez-vous ont été... Il y a eu au moins un choc psychologique. Est-ce qu'il est là, ce choc, depuis les annonces présidentielles, puisqu'il y a eu énormément de rendez-vous pris et une accélération, puisqu'on... On a rehaussé les objectifs de 10 millions, 50 millions de primo-vaccinés en France d'ici la fin août, d'ici la fin juillet, avec un mois d'avance.
Non mais ce qui est très bien, moi je suis ravie qu'il y ait plus en plus de Français qui se fassent vacciner. Ce que j'observe juste, c'est qu'il n'y a pas d'incitation qui est faite, puisque le seul message qui existe, c'est le pass sanitaire, que la vaccination obligatoire, c'est une règle claire, je le répète, pour tous les adultes, et qui me paraît... qui est possible à mettre en œuvre. Il y a deux questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce qu'on a le nombre de doses suffisant pour vacciner tous les Français qui devraient l'être ? C'est la question que j'ai posée hier au Premier ministre.
D'où vient l'inquiétude qui est la vôtre ? Puisque on annonce des livraisons records pour les deux semaines à venir.
Quand le Premier ministre me dit hier qu'il y a 22 millions de doses et qu'il en faudrait 50 pour vacciner tous les Français qui doivent être vaccinés, je constate juste que 22 est inférieur à 50, et largement inférieur. Donc là-dessus, je lui demande de me dire comment il fait en sorte, quels sont les approvisionnements, quel est le calendrier. Vous voyez, ce sont des questions très claires. Et puis le deuxième sujet qui est inquiétant, c'est quand vous avez des décisions qui sont contradictoires. Hier, le gouvernement a publié un décret qui vous permet, je vous prends un exemple très concret, le musée Ingres-Bourdelle à Montauban, si j'y vais, comme j'ai un pass, je peux enlever mon masque. Par contre, quand je ressors dans la rue, La préfète ayant pris un arrêté, je suis obligée de remettre mon masque. Comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent?
Mais quel sera le vote?
C'est la dernière question.
Quel sera le vote du groupe socialiste à la fin? Très brièvement, en deux mots, c'est terminé.
Ah, mais je vous répondrai à la fin. C'est-à-dire que nous avons clairement dit au gouvernement que s'il y avait des améliorations, s'il y avait des modifications ce soir, on envisagerait peut-être différemment notre vote, mais...
Il n'est pas acquis à cette heure.
À ce stade, il n'est pas acquis, tout simplement parce que je considère que la discussion parlementaire a un intérêt, sinon il ne faut pas la faire.
Merci beaucoup, merci Valérie Rabault d'avoir été l'invitée d'RTL Soir. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et que vous alliez retourner précisément pour continuer les travaux parlementaires. Merci, à bientôt sur RTL. On fait une pause, dans un instant on est avec Isabelle Morini-Bosque pour le programme télé du soir.
RTL Soir, Olivier Bois.
Bonsoir Isabelle Morini-Bosque.
Bonsoir tout le monde.
On va parler du programme du jour, mais vous nous parliez hier du nouveau Magnum et de sa moustache et sa chemise à fleurs. Ça a marché hier soir?
Eh bien non. Ah. Alors vous savez, les fictions françaises, notamment les polars, font tous actuellement de meilleures audiences que les séries américaines, qu'il s'agisse ou non d'inédits. En tête cet été, par exemple, les rediffusions de Tandem, Cassandre ou donc La Stagiaire avec notre camarade des grosses têtes, Michel Bernier, qui devance de 200 000 téléspectateurs Magnum. Ça vous laisse de glace, comme les Magnum, Magnum glace.
Sans commentaire. Voilà. Et ce soir, Isabelle, je propose qu'on se consacre aux inédits du jour, s'il y en a, même si l'été est la saison des rediffs.
Il y en a. Alors, comme j'ai déjà évoqué mercredi dernier l'excellent programme Sale temps pour la planète de France 5, je vous en dispense ce soir. Mais s'il vous plaît, visionnez en replay cette émission qui montre causes et conséquences du changement climatique. Ça s'appelle Roussillon, la puissance de l'eau, et j'espère bien que ça fera des vagues. Ça devrait.
Et vu l'actu, on a plutôt envie de se distraire en ce moment, Isabelle.
Parfaitement, avec un sujet de saison. Et franchement, figurez-vous que moi, qui me contrefiche et du camping et des camping-cars, j'ai adoré le Zone Interdite consacré sur M6 à quatre types de vacances familiales en camping-car. Ça va du van bricolé façon Rubik's Cube, tout est imbriqué, à l'incroyable bus américain, écoutez bien, de 12 mètres de long, 4,50 mètres de haut, 2,50 m de large, au luxe sidérant, chromé comme les dents de certains rappeurs. Écoutez la réaction de l'acheteur au débarquement de l'engin.
Ah là là, regarde ça. Ça jette, hein. Ah là là, le bestiau. Le soleil qui tape dedans, waouh, c'est grandiose. J'en ai presque les larmes à l'œil. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est monstrueux. Ah là là. Il n'y a pas plus top, quoi. C'est 3 millions de dollars, un récent. Celui-là, je ne l'ai pas acheté ce prix-là, hein, je le dis tout de suite. Ça se conduit comment, alors, sensation?
Franchement, simple. Hein.
Oui, Sam, ça se discute, vous verrez sur les routes. Alors, ce commercial et sa femme ont, eux, payé 120 000 euros ce van de 1988, vendant pour se l'offrir leurs 27 vans précédents. Vous verrez, c'est souvent compliqué, je vous l'ai dit, sur la route, et toujours douloureux à la pompe.
Ça tourne et c'est anxiogène. Je trouve pas, il est loin encore.
Et 20 minutes plus tard...
615 euros, 468 litres, mais il y avait encore plus d'un quart. Donc j'estime en fait le plein dans les 800 ou 900 euros, je pense. Quand on achète une Ferrari, on sait qu'il n'y a que deux places, qu'on ne peut pas rouler plus de 130 et on s'achète quand même une Ferrari. Là, c'est un peu la même chose. Je sais que ça consomme, que le péage, c'est cher. Voilà, mais ça, on le sait. Si on commence à avoir le portefeuille en peau d'hérisson, on n'achète pas ça, quoi.
Peau d'hérisson, j'adore. Et près de 1000 euros pour le plein de ce réservoir de 800 litres. On suit également des copains marseillais en Croatie dans deux minivans mini-confort. Un couple avec môme testant pour la première fois les vacances économiques sans écart de conduite surtout, ou la famille de quatre enfants au van bricolé avec une surprise, la demande en mariage de monsieur à Venise.
Plus on se rapproche et plus je sens mon cœur battre partout dans mon corps. Et j'espère que je vais pas dire une connerie, quoi. Pas me tromper de prénom, j'ai pas un truc dans le genre. Ça pourrait tout gâcher, quoi.
Non, vous verrez la suite. Alors, c'est pas parce qu'ils vont Vous verrez. C'est pas parce que. C'est le teasing, hein. C'est pas parce qu'ils vont presque tous à la mer qu'il faut dire que c'est un sujet bateau. On note aussi le polar Most Wanted Criminals sur TF1, efficace, classique. Et on termine par un programme tendance que je devrais conseiller normalement et qui, en fait, m'ennuie profondément. C'est L'ami prodigieuse sur la 2, tiré des romans à succès d'Elena Ferrante. C'est le parcours parallèle de deux amis d'enfance dans l'Italie clivée des années 50. Et moi qui adore les voitures des années 50, les tenues des années 50, les décors des années 50, les histoires des années 50, bref, les années 50, et ben malgré tout ça, franchement, j'aime pas. Rien ni c'est personne tranché, n'est ça. Attachant. Les héroïnes ont le regard morne des poissons qu'on sort de l'eau. On devrait être ému, on n'est que déçu et détaché, moi en tout cas. Et ça m'agace d'autant plus qu'avec plus d'humilité, plus d'authenticité, plus de simplicité, le feuilleton aurait pu être formidable. Mais voilà, selon moi, c'est suffisant et insuffisant, tant pis.
Ça, c'est un coup de gueule. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Et à demain, il est 18h32 sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et l'essentiel de l'actualité ce soir, les patrons de bars et de restaurants n'auront pas à vérifier les identités de leurs clients quand ils présenteront leur passe sanitaire. C'est Jean Castex qui en a fait l'annonce ce midi. En revanche, les cinémas, les théâtres, les bases de loisirs, pour qui la mesure est entrée en vigueur aujourd'hui, eux doivent faire un contrôle complet. Sur la campagne de vaccination, le Premier ministre promet 5 millions de rendez-vous dans les 15 jours pour fluidifier les demandes qui ont beaucoup augmenté. L'objectif reste d'avoir vacciné 50 millions de Français en première injection à la fin du mois d'août. Les 12-17 ans auront finalement jusqu'à fin septembre, eux, pour être soumis complètement au pass sanitaire obligatoire. Et puis, il y aura à la rentrée, d'ailleurs, une campagne de vaccination dans les établissements scolaires français. Dans le reste de l'actualité, les corps sans vie de deux fillettes de 4 et 6 ans ont été retrouvés au domicile familial dans le Finistère. Leur mère a été hospitalisée. Elle est soupçonnée de les avoir tuées sur fond de séparation conflictuelle.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Et demain.
Et demain. Et comme tous les soirs avec Guillemette, on se tourne vers l'avenir, ce monde d'après-crise sanitaire qu'on attend tous. Chaque jour, un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, Guillemette, vous êtes avec l'écrivaine Maïlys de Kerangal.
Bonjour Maïlys de Kerangal.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais bien. Je vais bien ce matin.
Est-ce que vous voyez l'avenir avec optimisme ?
Là, c'est une période de reprise. On a le sentiment que tout recommence, que tout revient. Après, je pense que rien ne sera jamais comme avant. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que ce qu'on va vivre sera marqué, secoué par cette année 2020. Et puis moi, je crois qu'aussi, plus, sur un plan plus personnel, c'est beaucoup ces questions de fragilité et de maîtrise qui m'intéressent.
À votre niveau personnel, individuel, vous l'avez ressenti comment, cette fragilité ?
Moi, j'avais commencé un roman, ce que je pensais être un roman. Et c'est vrai que, bien que les écrivains sont souvent, on l'a pu le dire, finalement des gens assez confinés, c'est un peu leur état de nature. Moi, je dois dire qu'il était hors de question de continuer à écrire comme si de rien n'était. Et j'ai plutôt retrouvé un rythme de travail dès début mai. Et là, j'ai recommencé à écrire et c'est devenu ce recueil de nouvelles, cette espèce de roman en pièces détachées, Canoë.
Justement, Canoë, donc vous disiez que c'était à la base un projet de roman, c'est un recueil de nouvelles. Ce côté fragmenté, vous l'attribuez en partie à la situation qu'on a vécue ?
Alors, j'ai pas mal réfléchi à ça, parce que évidemment, je trouve ça intéressant de mettre en rapport, évidemment, les périodes où l'on écrit les textes et les textes eux-mêmes. Hein. Pour Canoë, ce que je me suis raconté, c'est que c'est des textes avec l'idée de sonder la voix humaine. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose que je mets directement en rapport avec cette période, dans la mesure où le virus attaquait les poumons, mais aussi, il se passait là, je montre mon plexus solaire. Et ensuite, il y avait l'idée que les voix des autres, dont les corps nous étaient retirés d'une certaine manière, les autres étaient présents, advenaient par leur voix. Notamment ces grandes conversations, ces très longues conversations téléphoniques que moi j'ai pu avoir pendant cette période.
Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre.
Si vous deviez choisir un mot pour qualifier le Covid, vous choisiriez lequel ?
Je pourrais dire peut-être une secousse totale en fait et très fondamentale qui fait que quand même tout est remis en cause et je pense que ça crée une telle rupture.
Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier et qu'on aura dans le monde de demain ?
Alors, je pense que ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier, c'était un certain rapport au temps. Je pense que le rapport au temps a complètement changé. Je veux dire, la question du temps et de l'espace-temps, vous voyez, c'est-à-dire un lieu, un espace, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on vit. Ce que le Covid nous apprend, c'est qu'on doit réinterroger nos pratiques, une injonction à penser nos vies. Quelque chose sur ce plan-là qui est d'ailleurs assez stimulant.
Est-ce qu'il y a une musique ou un son qui vous aurait accompagné pendant le Covid ?
Ouais, alors j'ai écouté pas mal de musique classique en fait, alors que j'en écoutais pas tant que ça. Par exemple, j'écoutais beaucoup les disques de Toumani Diabaté là, récemment avec le London Symphonic Orchestra. Enfin voilà, là, sans parole et où la musique permet de planer, etc.
Merci beaucoup, Maïlys de Kerangal.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci Guillemette Franquet. On va faire une pause maintenant sur RTL. Dans un instant, on retrouve Jean-Michel Rascol. Et les histoires secrètes des Jeux Olympiques, comment l'athlète ce soir, comment l'athlète légendaire américain Jesse Owens s'est lié d'amitié en 36 à Berlin avec un de ses concurrents, précisément de l'Allemagne nazie. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et la petite histoire olympique du jour nous emmène en 1936, les Jeux à Berlin, dans l'Allemagne nazie. Jesse Owens remporte 4 médailles d'or et entre dans la légende. Son principal concurrent à l'époque était un Allemand et ils deviendront amis. Jean-Michel Rascol.
Et les petites histoires olympiques.
Petite histoire olympique.
Jean-Michel Rascol sur RTL.
La légende de Jesse Owens n'aurait pas eu le même éclat en 1936 sans la complicité d'un athlète nazi. Lors du concours de qualification du saut en longueur, l'Américain est perdu tout proche de l'élimination. L'ancien champion, Alain Blondel, feuillette pour nous l'une des plus belles pages de notre album olympique.
Après 2 essais en qualification, on sait que les athlètes ont 3 essais pour pouvoir se qualifier pour la finale, parce que c'est là que le titre est décerné. Et puis au bout de 2 essais, Jesse Owens était toujours loin des limites de qualification de 7m15. Il s'en sortait pas, il avait 2 essais mordus. Et puis c'est à ce moment-là que Lutz Long, son plus grand adversaire, qui était le favori de l'Allemagne nazie, Lutz Long est allé le voir et qui lui a recommandé gentiment en disant « Écoute, faut peut-être que tu recules tes marques, parce que a priori, pour l'instant, ça correspond pas à ce que tu sais faire. »
Jesse s'exécute, se qualifie pour la finale, où il retrouve 48 heures plus tard son nouvel ami, cet Allemand porté par 100 000 spectateurs et Adolf Hitler.
C'est un concours assez fabuleux parce que pendant les 5 premiers essais, ils sont répartis la première place au fur et à mesure. À chaque fois que Long sautait, Owens était capable de sauter plus loin. Long arrivait à ressauter aussi un peu plus loin. Donc c'était vraiment, c'était plus du temps en longueur, c'était une partie de ping-pong. Et c'était à celui qui allait laisser tomber la balle le premier jusqu'à la conclusion avec un saut assez fabuleux de Jesse Owens. Pour mettre dans le contexte, on est en 1936, sur une piste encendrée, il saute 8m06. C'est vraiment la magie des Jeux.
La première défaite d'Hitler. À Berlin, un noir de souche modeste contre la race aryenne. Tout se transforme en or. Et le Führer s'en étrangle de rage.
Ça n'a pas vraiment fait plaisir à Adolf Hitler. Son grand favori et celui qui représentait l'idéologie aryenne et nazie était grand, blond et il s'appelait Lutz Long. Il est défait par un noir américain. Il a refusé de serrer la main de Jesse Owens, qui n'a pas été surpris parce qu'il s'attendait vraiment à ce genre de signe de non-respect. Puis par contre, celui qui en a le plus souffert, c'est Lutz Long. Il a déçu tellement le Führer qu'il a fini dans la Wehrmacht et il a fini sa vie, malheureusement, sur le front de l'Est.
Jesse Owens, la perle noire aux 4 médailles d'or, évoquera son ami berlinois jusqu'à la fin de sa vie en 1980.
Merci Jean-Michel Rascol et à demain on sera à Moscou en 1980 avec les soviétiques qui étaient prêts à tout pour gagner des médailles, même à truquer la puissance du vent. On va retrouver maintenant l'humeur estivale de Laissez-vous tenter avec Stéphane Carpentier et on évoque la sortie évidemment aujourd'hui du film Kaamelott.
Cette musique, vous la reconnaissez sûrement, c'est celle de Kaamelott, la série culte d'Alexandre Astier qui passe enfin du petit au grand écran. Bonjour à vous Stéphane Woodstock.
Bonjour tout le monde.
Kaamelott, premier volet qui sort aujourd'hui au cinéma avec RTL.
Et voilà une décennie que des millions de fans attendent ce moment. On va gagner du temps, vous allez retrouver dans le film tous les ingrédients qui ont fait le succès jamais démenti de cette revisitation des aventures du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Humour absurde et burlesque donc, dialogue irrésistible, mais aussi une vraie profondeur sur le thème du pouvoir, du temps qui passe. Kaamelott, le film, ce sont de gros moyens, des batailles, des décors, un casting fou. L'histoire du film démarre là où la série s'était achevée, on est à la fin du 5e siècle. Arthur a disparu, il est donné pour mort, il a laissé le pouvoir à l'infâme Lancelot qui pourchasse ses derniers partisans, mais la résistance s'organise autour de Perceval et des autres. Et puis un jour, au bout du monde, Arthur Pendragon refait surface. Le reste, eh bien, ce sont 2 heures de grands spectacles et de petits moments d'anthologie. J'ai réuni pour vous Alexandre Astier qui réalise donc et reprend évidemment son personnage de souverain déchu, mais aussi un de ses acteurs, il joue un chasseur de primes, Guillaume Gallienne. Première remarque pour Alexandre Astier, ça y est, on n'aura plus à poser la même éternelle question. Et le film, c'est pour quand ?
Sauf si ça débouche sur « À quand le second ?»
Alors c'était ma dernière question.
Oui, enfin, non, mais moi j'ai toujours été très flatté quand on me demande la suite de ce que j'ai fait. Hein. C'est très agréable d'être suivi comme ça et attendu. C'est un petit peu tendu parce que la population de gens qui l'attendent sont assez sévères et exigeants, donc faut être au rendez-vous, mais quand même c'est une chance, avant tout, d'être attendu.
Évidemment, faut pas trop raconter ce qui se passe dans le film, même surtout pas. C'est quand même l'histoire donc de ce bon roi Arthur qui va être forcé de revenir, mais qui a pas très 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 envie de revenir. Moi, je me suis dit, pendant les 10 ans qui sont passés entre la fin du livre 6 et le film, est-ce que vous êtes passé par les mêmes états, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu cette idée, oh, après tout, si je laissais ça maintenant, si je passais à autre chose. Alors vous avez fait plein d'autres trucs, hein, évidemment, mais est-ce qu'il y a eu cette idée-là?
Non. Je crois que je me suis toujours dit que j'allais vivre avec un peu de Kaamelott et un peu d'autre chose. Donc je savais qu'il fallait remonter sur le cheval. Enfin, il n'y a pas de cheval, Kaamelott. J'aime pas ça, mais je suis toujours très content de savoir que ça m'attend dans longtemps, mais j'aime bien le temps qui passe aussi. Pour les gueules qu'on a, pour le fait d'accueillir de jeunes gens dans le film qui vont faire partie de la saga pour plus tard, pour j'aimerais bien faire le 3 avec une vraie tête de vieux, un vrai truc de... Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Voilà, donc il faut que le temps passe pour ça.
Parmi ceux qui rejoignent l'aventure, Guillaume Gallienne, oui, vous jouez un chasseur de primes qu'on voit au début du film, on va là aussi pas trop en dire. Moi, je me suis dit, à vous regarder, à vous écouter dans le film, qu'il y avait une jubilation, vous, pour qui le texte compte une jubilation à pratiquer cette langue-là, le astier.
Ah, oh bah oui. Ah oui, mais c'est un grammairien de dingue, lui. C'est incroyable, la culture de ce type, l'oreille de l'acteur qu'il a. Donc c'était jubilatoire, mais moi j'adorais la série. Alors j'ai pas tout suivi, je les ai pas tous vus comme les fans. Mais,
on est tous très occupés. Hein,
mais voilà, c'est voilà. Ça. C'est que... Mais j'avais piscine, mais quand même, j'adorais ce ton qui me fait penser quand même à Monty Python, qui me fait penser à l'humour anglais, qui me fait, enfin, à ce que j'aime. Et lui, il me fait mourir de rire. Et donc, quand il est venu me proposer, il me dit « Est-ce que tu voudrais bien être dans mon film ?» Je dis « Mais alors, mais madame est servie, ce que tu veux, vraiment. » Et donc, il m'a juste dit « Est-ce que tu as des restrictions ?» Et je dis « Ben non, à part le mal de mer.
Ah. »
Et il me dit « Bah, la scène se passe entièrement sur un bateau.
Ah, » Pour et être très précis, Guillaume, oui. C'est parce que tu m'as dit que tu avais le mal de mer que je t'ai mis sur un bateau.
Ah bon ?
Ben oui, il n'y avait pas de bateau avant.
Mais tu me l'as dit pourtant au moment du rendez-vous, tu m'as dit ça se passe entièrement sur
parce
un bateau.
Parce que tu venais de me dire que tu avais le mal de mer.
Mais cela dit, j'ai enchaîné en disant, quel salopio, mais j'ai enchaîné en disant je n'aurais pas le mal de mer et je n'ai pas eu le mal de mer.
Alors, vous êtes Alzagar, hein, c'est ça, dans le film, oui. Qui est un chasseur de primes qui va beaucoup jouer sur
qui va beaucoup le jouer retour dans le deux, devant la... enfin, qui ah, oui. Est vraiment beaucoup plus important dans le 2 quand même. Revoir, c'est la raison pour laquelle ouais,
c'est... Je suis tout à fait d'accord.
Pourquoi ça devait être Monsieur Gallienne qui jouait Alzagar, Alexandre?
Personne ne devait être Alzagar. Je suis allé demander à Monsieur Gallienne s'il voulait jouer avec moi. Et une fois que j'ai eu ce oui, c'est Monsieur Gallienne qui m'a donné envie de faire Alzagar.
C'est aussi un film de troupe, parce qu'on parle de Guillaume qui est avec nous là aujourd'hui, mais vous avez un casting absolument fou. Ceux que l'on connaît de la série, et puis il y a Cornillac, et puis il y a Clavier, et puis alors, j'ai évidemment en oublié, ça va être épouvantable. Sting, Géraldine Nakache, Chaba, qui est un personnage juste hallucinant. Cette idée de troupe, vous aussi, ça Guillaume, alors vous n'avez pas tous les scènes ensemble, évidemment.
Non, mais ça fait trouble. D'abord parce qu'on a tourné au départ à l'étranger, donc déjà on se retrouve dans le même hôtel, la cantoche, tout ça. Lui, il vient avec toute sa troupe, parce qu'il y a quand même toute la famille qui est là. Donc l'effet troupe, il est permanent. Et puis, comme vous dites, avec un casting extraordinaire, moi je les connaissais pas tous du tout. Moi, ce qui m'a beaucoup plu et emballé, et c'est pour ça que je veux vraiment être dans le 2, c'est que...
ça fait deux fois. Hein.
J'ai jamais
ça
dit qu'il n'y était pas. J'ai pas la peine d'insister, il est déjà dans le 2.
C'est que je savais que j'allais m'inscrire dans un corps de troupe, je savais que j'allais m'inscrire dans une langue et dans un type d'humour, je ne savais pas que j'allais m'inscrire dans une telle cinématographie. Quand j'ai vu la qualité, déjà dès les essayages costumes, l'univers de l'image... et du mouvement et de la mise en scène, ça c'était très très agréable aussi, de me dire « Waouh, c'est un putain de beau film !» Il y a une vraie esthétique, moi je me suis trouvé beau pour la première fois de ma vie, vraiment.
Le film, en effet, a une gueule folle, et puis on va s'arrêter sur le fond quand même, parce que évidemment qu'on se marre, parce que ils sont toujours aussi bourrus, crétins, valeureux, enfin on retrouve ça. Mais il y a un fond de sombritude et de gravitude, comme disait l'autre. Et moi, je me suis surpris aussi, et avec bonheur, hein, à être ému. Et Guillaume parlait tout à l'heure des Monty Python, il y a ça, mais il y a un côté Shakespeare, il y a un côté Star Wars, mais j'ai trouvé dans le côté le plus sombre de Star Wars, ça aussi c'était important que ça y soit.
Oui, alors après moi je nourris toujours un même fantasme. Voilà, depuis toujours, et puis je vais continuer de penser qu'une comédie, c'est l'endroit où on peut tout faire. On peut mettre un mec qui va pas bien dans, un, dans une comédie. Donc moi, mon fantasme, c'est qu'il y ait tout. C'est qu'il y ait l'épique, c'est qu'il y ait le drame. Et pas se sortir du drame comme ça en tirant une ficelle en disant « je déconnais ». Non, je déconnais pas. Non, il faut que ça y soit. Et je pense que les gens sont tout à fait envieux de tout recevoir.
De la gravité et du rire donc au programme de Kaamelott, Stéphane. Vous nous disiez tout à l'heure que le film avait une vraie gueule et de l'ambition. Hein.
Absolument. Il y a du monde, on l'a compris. Il y a des moyens aussi à l'écran. Alexandre Astier, en fait, n'a pas voulu se laisser déborder par l'ampleur du projet.
C'est pas si désagréable que ça de réaliser de grands trucs avec de grandes attaques, de grands machins. C'est un peu... Tout est un peu lent ces jours-là sur le tournage parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, parce que les choses prennent un peu un temps fou. Mais c'est pas désagréable, mais c'est pas pour ça que je fais tout ça. J'ai besoin de ça, mais ce que je fais, c'est redescendre tout ça à l'étage du huis clos, de deux acteurs, de trois acteurs, de gens qui se parlent, de faire parler leur langue et tout ça. Je fais ça que pour ça.
Alors, question pour vous deux, mais c'est vous qui allez répondre d'abord, Guillaume. Ils sont combien dans la personne qui est avec nous en studio? Parce qu'Alexandre Astier, il a fait le film, il a écrit, il le joue, il a quand même fait une musique qui a tombé par terre, sublime musique. Voilà, ils sont combien, réellement?
Moi, j'en ai vu qu'un, parce que tout est assez cohérent. Enfin, je sais pas s'ils sont plusieurs, mais en tout cas, ils s'entendent bien, ils se parlent tous. Tout ça est très entier et cohérent. C'est dément, c'est génial, mais c'est cohérent.
Alexandre, toutes ces casquettes, ça se gère, ça se vit bien?
Moi, je suis content d'entendre M. Gaëlle qui dit qu'il n'y a pas plusieurs casquettes. Non, parce que je ne le vis pas non plus comme ça. Hein. Enfin, disons que moi, j'aime bien les ingénieries, toutes les ingénieries que proposent nos métiers, quoi, qui sont classe, on aime bien. Donc, l'ingénierie qui consiste à faire une musique sur un montage et un montage sur une musique et des acteurs qui... Je change pas de casquette. Pour tout dire, je change même pas de pièce. C'est dans ma chambre, tout ça. Donc, c'est pareil. Enfin, c'est fabriquer un truc, quoi.
Alors, nous sommes le 21 juillet. Le film sort. C'est peu dire qu'il est attendu. Là aussi, et cette pression-là que nous, on veut absolument vous coller sur les épaules, est-ce qu'il faut s'en détacher, voilà, se dire, bah, après tout, il n'est plus à moi le film maintenant?
C'est vrai, moi j'ai fini. Hein. C'est pas que ça me concerne plus, mais je veux dire, je sais que maintenant, il a une vie qui me dépasse. Il a des gens qui l'attendaient très fort, qui vont être contents, d'autres qui vont m'être moins contents. Il y a des gens qui l'attendaient pas du tout et qui vont être contents quand même parce qu'ils s'attendaient pas à ça. J'en sais rien, mais je suis d'ailleurs curieux de le vivre. Je serais content que la réception de ce film me permette d'envisager un second volet. Oui, je vous cache pas que c'est ça le petit challenge.
Oui, moi aussi.
Oui, Guillaume Gallienne aussi.
Donc je vais... Non mais j'hésite maintenant à vous la poser, donc vous y avez en partie répondu, mais c'est la prochaine aventure, ou parce que vous avez fait déjà beaucoup de choses avant, qui sont différentes Kaamelott, il y a cette envie de s'y consacrer assez vite, ou de vivre le moment de la sortie de ce film?
Moi, j'ai plusieurs petits bateaux dans mon port. J'ai pas vraiment l'impression de décider très exactement de celui qui part en premier ou celui qui reste à quai. Et je vis assez heureux comme ça. C'est-à-dire que quand un truc se réveille comme ça et puis qu'il faut le faire, je suis heureux d'aller le faire. Mais je décide pas. Après, je pense qu'il faut pas être trop rapide, parce qu'il faut que le temps passe, encore une fois. Voilà. Et puis, mais on va quand même s'y mettre. Il faudrait s'y mettre un moment, oui.
Kaamelott, premier volet, sort donc au cinéma ce mercredi avec RTL, à voir et puis à écouter avec, on l'entend, cette sublime bande originale symphonique composée par Alexandre Astier, interprétée par l'Orchestre National de Lyon. Tout ceci est disponible chez Deutsche Grammophon.
Et il peut être assez confiant, Alexandre Astier. On n'a pas les premiers chiffres, mais en tout cas 200 000 personnes se sont précipitées hier soir, avant même la sortie, pour les avant-premières. On va faire une pause sur RTL et dans un instant on retrouve Laurent Marsic, les 100 ans de la radio. On parlera des canulars, en l'occurrence, grand classique de la radio. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir. Radio sur RTL.
C'est Laurent qui se charge de retracer l'histoire de la radio 100 ans. Ce sont des chapitres et des archives en pagaille. On vous racontait avant-hier, mai 68, à la radio. La semaine dernière, le Tour de France sur les ondes ou les liens entre la radio et le cinéma. Ce matin, un thème, la puissance de la radio et des canulars.
L'histoire de la radio regorge d'anecdotes démontrant la puissance, voire la force de persuasion de ce média. L'histoire la plus connue est évidemment le canular monté par Orson Welles le 30 octobre 1938 en adaptant pour la radio La guerre des mondes d'H.G. Wells. Quelques auditeurs, pas beaucoup, crurent effectivement que les extraterrestres avaient débarqué sur Terre. On attribue d'ailleurs à tort à Orson Welles la première panique radiophonique. Le premier canular est français. On le doit à un certain Gabriel Germinet, pseudo de Maurice Vineau. Il sera le premier directeur de Radio Paris. En 1924, il imagine et diffuse une pièce de théâtre intitulée « Marée Moto ». en racontant le naufrage en direct d'un paquebot. Les quelques auditeurs que comptait la radio à l'époque appelèrent, paniqués par centaines, le ministère de la Marine à Paris. La supercherie eut tellement de retentissement que la BBC et même des radios américaines achetèrent et adaptèrent la pièce de théâtre. La radio avait prouvé sa puissance, puissance de persuasion. Ce fut le cas aussi sur Radio Luxembourg, avec le feuilleton « La famille du raton » qui racontait le quotidien d'une famille de Français moyens.
Oh bah ça alors, c'est un monde !
Il s'est battu pour défendre son frère, là.
Et tu trouves ça bien ?
Oui, très bien.
Or, un jour, une des actrices dut s'absenter pendant plusieurs mois pour tourner un film de cinéma. Les auteurs imaginèrent donc un stratagème pour lui faire quitter le feuilleton. Elle tombait enceinte. Le père était un inconnu. À ce moment-là, M. Duraton réagissait en la bannissant tout simplement du foyer.
Bonsoir.
Bonsoir, papa.
Mais les auditeurs y crurent et le hall d'RTL fut envahi de layettes, lait en poudre et vêtements pour bébé. Impensable pour les auditeurs que cette pauvre jeune fille se retrouve à la rue avec un bébé.
Mes amis, au secours.
La force de la radio est cet exemple mythique, là encore sur Radio Luxembourg. Lorsqu'un soir de 1954, l'abbé Pierre franchit les portes d'RTL, suppliant qu'on lui donne un micro pour un message.
Une femme vient de mourir, je l'ai. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise, c'est simplement, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
Dans l'instant, personne ne mesure la portée de cet appel. Il y a quelques années, Roger Crécher, ancien patron des programmes d'RTL, se souvenait de cet appel, et pour cause, c'est lui, alors jeune technicien, qui avait enregistré et diffusé la voix de l'abbé Pierre.
Je finissais d'être technicien et je commençais à être réalisateur. Ça n'avait pas été ni prémédité, ni arrangé, ni monté. Il était venu comme un quidam venant de l'extérieur et on lui avait prêté le micro pour qu'il lance son appel. Avant l'abbé Pierre, on n'avait jamais fait appel à la solidarité ni à la générosité de nos auditeurs. Et donc, il est passé dans l'information du soir, il a lancé son appel. On n'y a pas prêté une grande attention et on s'est aperçu qu'il y avait quand même un résultat assez remarquable. On a vu un amoncellement de sacs postaux qui est arrivé. Les gens ont envoyé des mandats ou des billets dans des enveloppes et on a commencé à comptabiliser et on s'est aperçu qu'il y avait quelques centaines de milliers de francs, millions de l'époque, qui nous étaient parvenus, ce qui était extraordinaire.
À l'hôtel où l'abbé Pierre a donné rendez-vous aux Parisiens, 10 000 personnes sont là. Des femmes offrent leur manteau de fourrure. Un homme tend un chèque, 10 000 francs, c'est Michel Simon. On prie l'abbé de se rendre en urgence à l'hôtel Crillon. Un petit bonhomme l'attend, c'est Charlie Chaplin. Il lui tend un chèque de 2 millions de francs en expliquant qu'il veut aider ceux qu'il a incarnés au cinéma avec son personnage de vagabond.
Merci beaucoup Laurent Marsic et à demain pour continuer à célébrer les 100 ans de la radio. La météo, on vous retrouve Peggy Broche. Pour demain, c'est chaud et beau encore.
Exactement, avec des pointes, Olivier, écoutez bien, 37, 38 degrés dans le sud-ouest, 38 prévu à Cahors, je parle bien des températures à l'ombre, hein. 37 à Carcassonne et Albi, 36 à Avignon, 35 à Périgueux et Bordeaux, 32 degrés à Rennes, 30 à Clermont-Ferrand, Dijon, Paris, Orléans, 28 à Reims et Caen et 25 à Cherbourg. Ce sera la température là, moins chaude, on va dire ça comme ça, côté ciel. Vous l'avez dit aussi, il fera très beau, plein soleil sur l'ensemble du pays. Quelques petits bémols, mais alors vraiment pas grand chose. Le matin, c'est vrai qu'il y aura encore des entrées maritimes sur l'Aquitaine, donc ce qu'on appelle des nuages apportés par le vent marin. Quelques grisailles également sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, quelques plaques de grisailles, juste, il ne restera pas grand chose. Grisailles côtières qui résisteront sur les Landes ou encore sur le golfe du Lion. Puis une petite averse possible sur le relief des Pyrénées, mais ailleurs, du Grand Bleu. Et je rappelle qu'il y a toujours 4 départements en vigilance orange crue. Les Ardennes, la Marne, l'Aisne et l'Oise.
Et alors en revanche ensuite ça se dégrade.
Oui, ça se dégrade. En effet, vendredi, des averses orageuses dès le matin sur la Bretagne. Un ciel voilé sur toute la moitié ouest. Le voile sera léger, ce sera très ensoleillé à l'est. Mais attention parce que l'évolution orageuse va arriver à partir du massif central. Ça va remonter vers le nord-est en fin de journée avant une dégradation plus marquée dans la nuit. Et cette dégradation plus orageuse, on va la retrouver samedi. Du nord-est au massif central, de la pluie et des orages également entre la Bretagne et la Normandie. Il va pas mal pleuvoir en plus, hein. Et puis dimanche, des averses orageuses qui vont du coup se retrouver sur la façade est et un temps instable ailleurs entre nuages, éclaircies, quelques averses, des températures en baisse. On sera même légèrement sous les normales dimanche. Donc c'est vous dire les températures vont baisser.
Bon, on vous pardonne. Merci beaucoup Peggy Broche. Et dans un instant, il sera 19h. Ce sera le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Courte pause, à tout de suite.
Sur RTL, à ce soir.
Il est 19h.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et c'est l'heure du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
À la une ce soir, le casse-tête de la vaccination dans les écoles.
Le Premier ministre a confirmé qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire à l'entrée des établissements, mais les collégiens et les lycéens devront l'avoir d'ici la fin du mois de septembre. Dans ce journal également, malgré les nouvelles mesures, les professionnels du tourisme optimistes. Le retour du masque dès demain dans les rues de Nancy. Un nouveau rebondissement tient dans la stratégie de Xavier Bertrand. Et puis la France qui s'inspire du Japon à 3 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Et après votre journal Alexandre, Apéro Club avec Julien Molcou qui reçoit ce soir le chanteur Hervé, révélation française aux dernières victoires de la musique.
RTL Soir.
Le pic de la quatrième vague devrait être atteint à la fin de l'été, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce serait donc en pleine rentrée scolaire. Les chiffres montrent que les jeunes sont particulièrement atteints. Pour autant, le pass sanitaire ne sera pas nécessaire pour aller à l'école. Le gouvernement préfère miser sur une campagne de vaccination à grande échelle dans les établissements scolaires. Nerissa Imani, l'organisation s'annonce compliquée.
Oui, c'est en tout cas ce que disent les syndicats des personnels de direction qui ont appris cette mesure à la télévision. Qui va se charger de vacciner? Dans quel lieu? C'est ce que se demande Jean Klein, principal et secrétaire national du syndicat SNU-PDEN.
Comment voulez-vous qu'une seule infirmière qui est là au mieux 2 jours par semaine puisse vacciner les 3/4 ou la moitié de l'établissement? Ça ne peut pas être la seule solution. Donc il est indispensable que les ARS soient mises à contribution pour envoyer du personnel qualifié pour faire cette vaccination. Il va falloir qu'on nous explique un petit peu les choses.
Car Jean Klein reçoit déjà des appels de parents qui veulent plus d'informations. Hubert Salin est porte-parole de l'APEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Et selon lui, localiser la vaccination au plus près des élèves est une bonne nouvelle.
Pour certains jeunes, par exemple, en milieu rural, ça peut être compliqué d'aller sur les centres de vaccination, de prendre les rendez-vous. Voilà, les familles ont des problèmes de mobilité. C'est pareil au niveau des banlieues ou certains quartiers moins favorisés. Donc là, au moins, le centre de vaccination sera juste à côté. Les enfants verront les copains se faire vacciner. Donc on peut penser qu'il y aura un effet d'entraînement et que ça va augmenter le nombre d'enfants protégés.
En tout cas, le ministère de l'Éducation promet de communiquer plus précisément sur cette vaccination à partir de lundi.
Nerissa Imani pour RTL. Les 12-17 ans ont au moins obtenu un sursis d'un mois supplémentaire. Comme l'avaient voté les députés la nuit dernière, les adolescents n'auront finalement pas besoin du pass sanitaire avant la fin du mois de septembre au lieu de la fin du mois d'août.
Sans attendre la rentrée scolaire, le gouvernement veut encore accélérer le rythme de la vaccination dans les prochaines semaines.
Le Premier ministre a fixé l'objectif de 50 millions d'ici la fin du mois d'août. 50 millions de Français qui auront reçu au moins une première dose, c'est 10 millions de plus que le cap initial.
Dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous dans cette période. C'est pas seulement ouvrir pour vous dire vous aurez un rendez-vous le 20 août. Et j'espère bien qu'à partir de la semaine prochaine et la suivante, là je lance un défi collectif sur la dernière semaine de juillet, la première semaine d'août, j'aimerais qu'on fasse au moins 4 millions par semaine, enfin 8 millions sur les deux, c'est un objectif très ambitieux, mais qui montre aussi que nous aurons compris la gravité de la situation.
Jean Castex qui était l'invité tout à l'heure du JT de TF1.
Une campagne de vaccination qui s'accélère, portée par la généralisation du pass sanitaire.
Depuis aujourd'hui, il faut montrer un certificat de vaccination ou un test négatif pour pouvoir accéder au cinéma, aux piscines, aux musées, aux parcs d'attractions ou encore aux zoos. Sophie Jousselin, on peut déjà observer un premier impact sur le tourisme.
Oui, curieusement, le premier effet a été de booster la fréquentation, notamment dans les parcs d'attractions. Ils ont fait des chiffres records le week-end dernier, mais ça ne devrait pas durer. Didier Rino, directeur du cabinet Pro Tourisme.
On peut s'attendre à une baisse conséquente de cette fréquentation, d'au moins 20% par rapport à une année normale. Il y a une partie des gens qui sont contre les passes sanitaires, qui eux prendront la décision de ne pas y aller, et c'est sur ces clientèles qu'on peut s'attendre à une diminution de la fréquentation.
En plus du pass sanitaire, les professionnels doivent faire face à la dégradation de la situation sanitaire, notamment sur le littoral. Ça pourrait pousser certains vacanciers à changer leur plan.
Effectivement, ceux qui n'ont pas encore choisi leur destination, ils préféreront aller vers des destinations où ils ont le sentiment d'avoir beaucoup plus de liberté, moins de contraintes et un risque sanitaire moindre. On le voit bien, y compris pour les destinations étrangères, je pense à l'Espagne et au Portugal, la plupart de ceux qui avaient déjà réservé ne renoncent pas à leurs vacances. En revanche, on a un flux qui starie pour les réservations de dernière minute.
Malgré tout, la saison saison touristique devrait être bonne. Les chiffres sont excellents sur ces premières semaines, plus 12% par rapport à 2019.
Sophie Jousselin pour RTL. Et puis il y a ce chiffre ce soir, 21 000 nouvelles contaminations dans les dernières 24 heures. Face à l'accélération de l'épidémie, de plus en plus de villes décident d'imposer à nouveau le masque à l'extérieur.
La liste s'allonge un peu plus chaque jour. D'abord dans les Pyrénées-Orientales, en Charente-Maritime ensuite. Depuis aujourd'hui, il faut mettre le masque en Haute-Garonne, notamment à Toulouse. Et puis à partir de demain, ce sera à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, Dimitri Ramelot.
Place Stanislas, entre la sortie du parc de la Pépinière et le musée des Beaux-Arts, un passant sur deux ne porte pas le masque, comme Sandra, la trentaine, qui sort du travail.
Il faut remettre le masque dehors. Ah bah, je ne savais pas, c'était l'été, je pensais que c'était fini. Bon bah, s'il faut que je le remette, je le remettrai.
Et juste derrière elle, qui part faire ses courses, Michel, masque en tissu sur la bouche, mais pas sur le nez, s'agace de la mesure.
Le remettre à l'extérieur, surtout par les grosses chaleurs, ça devient insupportable. Un jour on le porte, un autre jour on le laisse.
Et Amélie, elle aussi masquée, de ne pas comprendre la politique mise en place, surtout qu'elle respecte scrupuleusement tous les gestes barrières.
J'ai l'impression de payer un peu pour les autres. Je suis vaccinée, j'ai les deux doses. Et là, devoir reporter le masque en extérieur, je trouve pas ça normal, je trouve pas ça logique, surtout que obligé de le porter en extérieur, alors qu'on n'est pas obligé de le porter en intérieur dans certains lieux, moi franchement, je comprends plus rien.
Et l'obligation concernera 17 communes autour de Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle, où le taux d'incidence à 48,6 pour 100 000 habitants flirte avec le seuil d'alerte fixé à 50.
Dimitri Ramelot pour RTL. Encore des manifestations d'anti-pass sanitaire dans plusieurs villes de France cet après-midi, à chaque fois quelques centaines de personnes. À Chambéry, certains d'entre eux se sont introduits dans la mairie. Ils ont décroché le portrait d'Emmanuel Macron pour réclamer la démission du chef de l'État.
On va faire une pause, Alexandre, et dans un instant, que se passe-t-il dans la tête de Xavier Bertrand? Après avoir juré qu'il ferait cavalier seul pour la présidentielle, il tente apparemment, en tout cas, de se rabibocher avec son ancienne famille politique, les Républicains.
RTL Soir, Olivier Bois.
19h09, la suite de votre journal, Alexandre de Saint-Aignan. Xavier Bertrand a rencontré aujourd'hui l'état-major des Républicains. Une réunion qualifiée d'importante et de constructive.
Moins de 24 heures après avoir reçu 5 candidats potentiels à la présidentielle, les ténors de LR ont en effet rencontré ce matin Xavier Bertrand, Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Terminé les signaux de fumée, la droite serait-elle finalement sur la voie de l'apaisement?
Oui, c'est bien ce qui ressort des commentaires, officiellement et en coulisses. Alors attention, la primaire, Xavier Bertrand ne s'est pas converti à l'idée d'y participer. Il est toujours convaincu que sa candidature s'imposera aux autres comme une évidence, primaire ou pas. Mais ce qui est nouveau, selon l'état-major de LR, c'est que désormais le président des Hauts-de-France a compris qu'il lui fallait faire des gestes de rassemblement à l'égard de ses petits camarades. Hier, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Michel Barnier et Philippe Juvin ont fait une petite démonstration de force sur le thème de l'unité. Et Xavier Bertrand a compris le signal. Il est prêt à les rencontrer tour à tour au cours de l'été, nous révèle un conseiller qui ajoute « On a une chance historique de pouvoir gagner et chacun est conscient qu'on a besoin les uns des autres. » Alors cette avancée peut paraître ténue, mais les intérêts de Xavier Bertrand et la conviction du président de LR, Christian Jacob, paraissent en train de converger. On saura début septembre s'ils ont réussi à tuer la primaire dans l'œuf.
Marie-Bénédicte Allaire pour RTL.
Et cette polémique maintenant, des photos de victimes du Bataclan ont été utilisées dans une campagne de soutien à Éric Zemmour.
Leur visage en noir et blanc, entouré d'un liseré bleu, blanc, rouge, un prénom, une date, le 13 novembre 2015, et un hashtag Nos vies comptent. Il y en a toute une série qui ont été postées sur les réseaux sociaux par un compte qui soutient la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle, une utilisation qui indigne particulièrement Georges Salines, membre de l'association française des victimes du terrorisme. Il a perdu sa fille lors des attentats du Bataclan.
C'était vraiment un choc de voir ces photos que je connais bien, choqué par la récupération politique de ces photos, de ces visages, sans demander l'autorisation des parents. Je trouve ça méprisable, dégueulasse, ignoble. Malheureusement, bon, c'est les hasards du calendrier, mais le calendrier du procès va coller presque exactement au calendrier de la campagne électorale et des élections présidentielles. Donc, tout est à craindre sur ce plan. Tout est à craindre. Ça met des bâtons dans les roues de ceux qui, comme moi, et d'autres victimes, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des enseignants, qui travaillent à faire de la prévention, à faire de l'histoire, à être juste, à appeler au dialogue. Et cette manière d'embarquer ou de détourner des événements est vraiment du sabotage.
Des propos recueillis par Cindy Hubert pour RTL. Deux fillettes retrouvées mortes à leur domicile près de Brest, âgées de 4 ans et demi et 6 ans et demi. Les enquêteurs s'orientent sur la piste d'un drame familial. Ce serait leur mère qui les aurait tuées dans un geste de désespoir alors que le père lui a fait part de son intention de rompre avec elle.
Nous allons partir maintenant à Tokyo, à deux jours désormais de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les Français sont sur place et pas seulement pour tenter de ramener des médailles.
Les épreuves ont déjà commencé pour certaines disciplines, notamment le football avec l'équipe de France qui va affronter le Mexique demain matin à partir de 10h. Alors à part les sportifs, il y a aussi des officiels qui ont fait le voyage à l'image du comité d'organisation de Paris 2024, Nicolas Burnand.
Oui, la délégation française est venue présenter l'avancement de son projet à l'occasion des sessions du CIO, mais surtout observer comment les Jeux se déroulent ici. Étienne Taubois est le directeur général du comité d'organisation des Jeux de Paris.
Je pense que pour nous, il y a des choses qui évoluent très vite, de jeu en jeu. Pas forcément très visible, mais aujourd'hui, on ne serait-ce que la flotte de véhicules, où vous savez que le Japon a fait un choix très clair de l'hydrogène de manière forte. Donc pour nous, c'est pas tout à fait la même chose. On sera plutôt sur des logiques électriques, mais on aura quand même de l'hydrogène à Paris. Toutes les choses vont avoir une réutilisation, ça c'est important. Comment les Japonais ont réussi à s'adapter.
Une cinquantaine d'observateurs ont déjà visité le village olympique et rencontré des officiels japonais. Le système de reconnaissance faciale ultra rapide, déployé par exemple à l'entrée des sites olympiques, les intéresse particulièrement. Tony Estanguet est le président de Paris 2024.
Chaque membre de Paris 2024 sait exactement ce qu'il doit observer ici pendant ces trois semaines. Comment sur les sports, comment sur les transports, sur l'hébergement, sur la restauration. Et effectivement, la crise du Covid, elle va continuer. On ne sait pas encore pendant combien de temps, mais déjà de réussir à démontrer que c'est possible de continuer à organiser les Jeux dans ces conditions, je trouve que c'est un superbe message d'espoir pour le monde.
Le triple champion olympique de canoë, ancien porte-drapeau de la délégation tricolore à Pékin en 2008, a même eu le privilège d'assister tout à l'heure à la répétition de la cérémonie d'ouverture.
Au Japon, l'envoyé spécial de RTL, Nicolas Burnand.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. On vous retrouve tout à l'heure à 20h pour le Flash. La météo, Peggy Broche, tout bleu. Presque parfait pour demain.
Exactement, franchement la carte elle est magnifique, on a du soleil pour tout le monde, que ce soit le matin ou l'après-midi, mais il y a toujours quelques bémols, vous le savez. Alors je vais commencer par les bémols. Sur la côte aquitaine, le matin, c'est vrai que comme ce matin, demain on aura quelques nuages et ça va se dissiper dans l'après-midi. Quelques grisailles également sur la côte d'Azur, un peu de brume et de brouillard dans la matinée sur le Cotentin et le Nord-Pas-de-Calais, tout ça va se dissiper pour laisser place à un beau soleil. Résisteront quelques plaques de grisaille quand même sur les côtes landaises, mais ça reste très localisé sur le golfe du Lion. Et puis peut-être une petite averse sur le relief des Pyrénées-Orientales dans l'après-midi, sinon ailleurs du tout bleu, vous l'avez dit, et des températures bien élevées. 27 à Nice comme à Abbeville, 28 à Nancy, 29 à Ambérieu, 30 degrés à Alençon, Paris, Bourges, 33 à Limoges, Montpellier, Marseille, 36 à Agen, 37 à Toulouse et même jusqu'à 38 attendus à Cahors. Et je rappelle qu'il y a toujours 4 départements en vigilance orange crue, les Ardennes, la Marne, l'Aisne et l'Oise.
Merci beaucoup.